beaucoup de théorie et pas plus simple quelquefois. Et une partie de ce qu'on retrouve dans ces ouvrages se retrouve donc dans cette partie la théorie.
Bon, il y a autre chose. Il y a ce point de théorie dont on peut dire un mot. C'est la question de la constitution du fantasme. Le fantasme, c'est en somme quelque chose de l'ordre d'un scénario inconscient qui nous anime, qui est à la base de nos symptômes et qui. Notre rapport aux autres, à l'autre en général et au plus proche en particulier. C'est quelque chose qui se constitue dans le rapport avec les premiers autres, qui sont en général les parents, et à notre exposition. Cette question, bon, je schématise, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je suis pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je suis? Bon, alors ça c'est la question du fantasme. Mais au-delà, il y a une deuxième question, mais ça on va y venir après, qui est le rapport du psychanalyste à la théorie.
Ouais, ça, c'est autre chose. Mais si je vais vous amorcer sur un sujet qui est quand même tout très important. Là, il y a Freud. Moi, j'avais été fasciné par le fait que Freud avait découvert une petite note clinique, donc ça ne donne rien du tout, qui est ce qu'on appelle le roman familial. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'idée de dire que dans l'évolution de l'enfant, bon, souvent on ne se rappelle pas, à un moment donné, tout enfant pense que ses parents ne sont pas ses parents. Si vous creusez, des fois on retrouve un peu, vous avez envie que ce soit la reine d'Angleterre ou bien le président de la République, enfin moins en ce moment. Donc ça veut dire, il y a. C'est-à-dire qu'on passe dans une espèce de phase. Qui est un épisode de survie, je trouve que c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que l'enfant va créer une sorte de matrice du fantasme qui fait qu'il n'est pas totalement sous la dépendance des autres. Ça, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, ça veut dire que vous n'êtes pas, contrairement à ce qu'on pense, vous n'êtes pas livré uniquement totalement à l'arbitraire de l'autre. Il y a quelque chose d'emblée, et c'est là où j'ai mis la question. J'ai travaillé le fantasme d'exclusion, ça auquel je tenais, je ne me rappelle plus exactement comment ça marche, mais ça fait rien. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on va créer un certain nombre de fantasmes qui vont vous permettre d'échapper un peu à la prise par le désir de l'autre, et surtout par la demande de l'autre. Et ça, c'est un point qu'on retrouve chez Freud, et qu'on retrouve chez Lacan, d'ailleurs, aussi, puisque il va mettre en place, lui, il va carrément mettre en place une logique du fantasme qui est à part du côté de la logique signifiante habituelle.
Bon, venons-en à l'autre question.
Voilà.
Il est bien connu que les psychanalystes passent leur vie, leur vacances et leur week-end à travailler la théorie.
Pardon. Ça, c'est les bons cas.
Alors, qu'est-ce qu'il travaille là? Qu'est-ce qu'il travaille et qu'est-ce qu'il cherche? En tout cas, c'est pas loin d'une addiction. C'est pas loin d'une addiction. C'est une grande tentation. C'est une grande tentation que enfin savoir comment fonctionne cet inconscient. Seulement, c'est un rapport qui est aliénant. C'est un rapport qui est aliénant et qui s'oppose au conseil que nous donne autant Freud que Lacan, qui est de mettre en suspens tout savoir établi à l'abord de chaque nouvelle expérience clinique. De le mettre en suspens pour être justement en mesure de répondre à cette contrepartie de la règle fondamentale, c'est-à-dire d'être prêt à tout accueillir, si possible, sans idée préconçue.
Voilà, tu m'étonnes.
Bon, on va parler tout à l'heure. Alors, comment est-ce que on peut s'arranger? Est-il possible de donner une juste place à la théorie dans l'abord de la clinique? Quand je dis une juste place, c'est-à-dire une place qui n'est, enfin, où la théorie n'est pas assourdissante, c'est-à-dire ne rend pas sourd sur une partie, voire sur une grande partie, ou l'essentiel de ce qui se dit. En clair, de faire en sorte que Freud a dit, quand il a donné son conseil de tout mettre en suspens, l'argument qu'il a avancé, c'était, si le psychanalyste travaille avec la théorie, il ne trouvera que ce qu'il sait déjà. C'est simple.
Ouais, pas c'est simple.
Comme argument.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a un autre rapport possible?
Je ne poserai pas le problème de la même manière, c'est pour ça. Moi, je dirais que ce que nous apprennent les analysants, déjà, les analystes aussi, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Déjà, on commence. Ça veut dire, c'est vraiment, la question est à l'envers. Comment être à la hauteur de ce qu'on exige de nous? C'est pas une autre question. C'est-à-dire, ce qu'on exige de nous, c'est là où tu as raison, c'est d'être, d'avoir suffisamment de connaissances, de savoir, pour pouvoir l'oublier quand on écoute quelqu'un. Mais c'est vachement important ça, de définir comme ça. Ça veut dire, si on est l'analyste ou celui qui écoute, qui est dans la fascination du savoir, parce qu'il n'a pas traversé, parce qu'il n'est pas curieux, ou truc, il risque d'être fasciné par le discours du patient. Et c'est ça la question. C'est-à-dire, comment faire pour justement arriver à devenir quasiment vierge, hein, vous avez vu, hein, virginale, perméable, hein, au discours de l'autre, c'est justement, non pas, moi je dirais, pas la question de la théorie, mais par la question de la théorisation, ce qui me semble très différent. C'est-à-dire, c'est pas la théorie en tant que telle, c'est quelque chose de l'ordre d'un travail sur quelque chose de très infantile, au fond, qui est la question de la curiosité. C'est-à-dire la théorisation, je crois que c'est ce qui permet peut-être de tricoter un peu quelque chose à partir de ses expériences passées, à partir de ses expériences du texte, qui permettent justement d'oublier la théorie. C'est-à-dire, alors parfois, d'être un peu comme ça. Dans cette période, tu sais mieux que moi d'ailleurs.
Non,
mais si.
Non, mais je pense là à quelque chose que j'ai rappelé cet après-midi, c'est que, au fond, Lacan, à un moment donné, a soutenu que le discours théorique n'avait absolument rien de théorique, puisqu'il mettait la théorie en question. Bon, ça rejoint ce que tu dis, hein, c'est-à-dire, il s'agit constamment de remettre. La théorie en question, c'est ce que faisait Freud. Quand il était leur ancien concept, ils disaient je le maintiens jusqu'à ce que l'expérience me dit que c'est pas ça.
Parce que c'est pas long une vie hein, pour travailler. Non mais c'est vrai. Alors, vous rendez compte qu'on a traversé quand même. On va y venir à propos de la suite, de la psychiatrie.
Voilà, on va partir un peu en excursion.
Mais moi, je crois qu'il faut savoir, c'est-à-dire cette éthique de la psychanalyse qui consiste, qui est très spécifique, qui est une éthique autour du désir inconscient, il y a émergence du désir inconscient que si l'analyste est en position de pouvoir s'abstraire de sa propre subjectivité, de ses propres symptômes. Jusqu'à quel point il peut le faire, ça c'est une question difficile, et Freud il a suffisamment insisté sur le fait qu'il faut remettre sur le chantier les choses, mais je crois que actuellement, ce qu'on parle du rapport à la théorie, de la théorisation, c'est le rapport à la culture tout court.
C'est-à-dire de la psychanalyse au-delà de la cure. Du psychanalyse hors de son champ propre. Elle concerne la clinique étendue dans un sens beaucoup plus large qui consiste en une lecture psychanalytique du champ littéraire, des œuvres d'art, des faits de production littéraire, du théâtre, de la philosophie. Alors, le lecteur traversera entre autres un essai sur la séduction dans cette partie, un commentaire de la tragédie de Médée, une étude du rapport de l'homme à la terre et deux textes sur le totalitarisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette excursion du psychanalyste qui sort de son champ et qui s'en va un petit peu hors les murs?
On va aller à Marseille, au moins.
À tous les deux, parce que vous l'avez peut-être pas parlé à la même façon.
Non, on
n'a
pas tout à fait la question. Ouais, je commence ou tu commences?
Il faut dire que, par exemple, le texte sur la séduction, ça me semble un texte qui a été important parce que c'était à l'occasion du décès du professeur Camerer. Donc, voilà, donc c'était un texte qui était un peu, on pourrait dire, circonstancié. Ce que je dirais, c'est que moi, les textes que j'ai pu faire concernant la psychanalyse en extension et pas la psychanalyse appliquée, qui est une aberration.
C'était le terme,
ouais, on parlait
de psychanalyse
appliquée. Sont au fond des textes qui ont été en gros des textes de commande. C'est-à-dire, moi je parle de l'idée à l'envers. C'est-à-dire, c'est bel et bien l'artiste, le philosophe, le scientifique, qui lui a enseigné le psychanalyste. C'est-à-dire, on n'a pas à rentrer directement dans des terrains qui ne sont pas les nôtres. C'est pour ça que je supporte très mal. Que les collègues psychanalystes commencent à se promener au Sénat pour donner leur opinion sur le mariage homosexuel. Il y a des trucs là qui sont... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vient foutre là-dedans? C'est pas... quand que vous ayez une position personnelle en bon républicain, vous pouvez dire ce que vous pensez de quelque chose. Mais de là à dire que c'est au titre de psychanalyste que vous allez parler des choses, alors là, on n'est plus dans un rapport à... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de... Par exemple, sur Médée, ça avait à voir avec, à un moment donné, plus ou moins un travail qui se faisait sur Médée, auquel j'ai rajouté ma propre élément. La question du totalitarisme, c'est des choses qu'on a travaillées beaucoup à l'époque avec Lucien Israël. Par rapport, ça correspondait à la montée de Le Pen à l'époque. Et donc, nous avions travaillé ces choses dans un contexte qui était très précis. Mais c'est vraiment à l'envers. Je crois que c'est un espace culturel suffisamment pensé et qui nous enseigne. C'est-à-dire qu'on cite un certain nombre de philosophes, qu'on récupère un certain nombre de choses. Il faudrait déjà avoir le génie de Lacan ou le génie de Freud pour arriver, si je puis dire, à piller avec génie un certain nombre de notions de son époque pour en faire véritablement un miel qui est le leur. Donc voilà. Par contre, ce que je dirais, c'est que par le biais d'éléments culturels, en tout cas pour l'enseignement, parce que je fais quand même un certain nombre d'enseignements, c'est souvent une manière de pouvoir signifier quelque chose de l'inconscient, puisqu'on n'a pas la possibilité de parler véritablement de cas, de parler véritablement d'exemples cliniques. C'est tellement pris, c'est tellement une approche de la singularité. On aurait des choses à dire, mais vous voyez, cette chose, les gens ils viennent nous voir, c'est que on la ferme en plus. Pas obligatoirement dans le cabinet. C'est-à-dire, c'est un secret, pas seulement professionnel, mais c'est un secret absolu. C'est-à-dire, et nous, on ne peut pas. Alors, ce qui est formidable, c'est que la culture, la philosophie, la science, c'est ça, c'est Lacan aussi, hein,
c'est un déplacement.
Et de signifier quelque chose des mécanismes inconscients, ou de signifier quelque chose, on pourrait dire, de la psychanalyse elle-même, par un autre.
Oui, alors. Non, je suis pas du tout.
Je suis pas con.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. J'ai simplement. Bon, c'est quoi? C'est donc une lecture psychanalytique de ces œuvres d'art, de production, etc. Où on découvre, comme tu l'as dit, un certain nombre des ressorts de l'inconscient. Il n'y a aucun doute. Simplement, ce que j'ajoute pour ma part, c'est que il y a un aspect restrictif. Il y a un aspect restrictif dans la mesure où, par rapport à la clinique à l'état naissant, hein, ce que j'appelle dans l'état naissant, c'est-à-dire dans le cadre même du cul, puisque la partie transférentielle est absente. Si c'est un transfert sur le quand même. Bon, et d'autre part, l'interprétation, il y a interprétation, il y a, mais il n'y a pas de sujet qui peut répondre dans la précoce sur les effets de cette interprétation. Mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas quelque chose qui rentre dans le cadre de la clinique. Voilà. Bon.
Et les formations de l'inconscient, dans le cinquième chapitre, vous ajoutez que les formations de l'inconscient, vous les voyez comme une création.
Oui.
Et c'est une qui se donnait beaucoup, je sais.
Oui, alors là, maintenant, on arrive au point enfin important. Non, mais il faut quand même arriver quand même à un point. Non, moi je crois que la question qui se pose, c'est la psychanalyse a quelque chose d'extraordinaire parce que ça va dans le sens d'un plus de créativité. C'est-à-dire d'un plus de créativité d'un sujet donné. Et là, sujet, c'est pas dans le sens très de la théorie. C'est-à-dire, il y a quelque chose là. C'est-à-dire, ça, c'est un peu le but de l'opération, on peut le dire comme ça. C'est d'avoir au moins lever un minimum un certain nombre de symptômes, ça, à la limite, on pourrait dire c'est le volet thérapeutique. On n'a pas dit psychothérapie, hein, on enlève ça. Thérapeutique de la même chose. C'est-à-dire, il y a un volet, il faudrait quand même que je dise ça, mais je vais dire un mot sur le volet thérapeutique, et le volet créatif, c'est-à-dire chacun est à même, à partir de l'insu de son propre inconscient, une créativité qui lui est propre. Et cette créativité, le but de l'analyse, c'est de développer ses capacités de créativité. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais je vais vous dire, je trouve quand même, disons 40 ans, il y a quand même, on pourrait dire, au moins une personne sur deux qui qui arrivent à y trouver un certain nombre d'un plus par rapport à leur rapport au désir, à la parole, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit plus actuellement. C'est-à-dire, on essaye de comparer la psychanalyse avec les psychothérapies. Vous savez, c'est toujours pareil, c'est comme les tiercés. À ceci près, pour les tiercés, entre la thérapeutique familiale, les TCC, hein, qu'est-ce qui m'en manque, le psychodrame, le drame psycho, voilà, et puis on compare la psychanalyse. C'est comme un tiercé où vous avez les chevaux, tout le monde est en ordre, le truc, et puis alors, le cheval de la psychanalyse, lui, il fout le corps dans tous les sens. Il part à gauche, à droite, alors on vous dit, ah ben, dis donc, vos résultats ne sont pas terribles. Hein. Vous n'arrivez pas au but préfixé, là. Hein. Au point de vue de l'évaluation de départ, c'est pas de terrible. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de ce rapport à la créativité, et ça, je l'explique dans ce bouquin, différentes manières. On pourrait dire qu'il faut rappeler et qu'il faut mentionner, avec en arrière-fond, une question qui est quand même terrible, il faut savoir, qui est le fait, le primat freudien quand même. Ça, vous pouvez le dire par le biais de la psychanalyse en extension, par le biais de choses un peu déviées. C'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'homme n'est pas bon fondamentalement. Je suis désolé, vous avez une sale blague. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on pourrait dire, du rapport à la haine, qui est absolument, qui est complètement fondamental dans le monde. Et ça, c'est-à-dire, et on peut très bien avoir, il y a peut-être un primat de la haine, un primat de la férocité, il y a peut-être un primat. La question, c'est, et ça, Marcel Ritter, on en a parlé il y a peu de temps, c'est savoir quand il y a levé le refoulement, quand vous allez lever le fait, le désir meurtrier, le désir de bouffer l'autre, de l'embrasser, ça peut être les deux d'ailleurs, hein. Bon. La psychanalyse, c'est pas simplement comme l'hypnose, de dire ah ben, je vais vous la lever là. Je parle de l'impulsion. C'est le fait. Non, c'est important, c'est que ça, Freud, bien sûr, on en a parlé un peu aujourd'hui. C'est que le sujet, l'individu, va pouvoir se positionner. Il va choisir. Et c'est là le vrai choix. Un vrai choix, c'est de lever l'émotion inconsciente qui vous anime, dont vous êtes des pauvres marionnettes, laissez-moi vous dire, hein, et de pouvoir vous positionner par rapport à ça. C'est pas parce que j'ai envie de détruire ma maman que je suis obligé de le faire. Mais si je ne suis pas sans savoir, je vais pouvoir me repérer autrement.
C'est la liberté des choses.
Voilà. Ça, c'est une vraie liberté.
Finalement, le mot art dans le titre, vous n'allez pas le dépasser du coup, puisque la psychanalyse est quand même un art.
C'était un art martial.
Freud parlait de la Deutungskunst, de l'art d'interpréter, hein, à propos de la psychanalyse.
Et après, pour signer, vous faites juste attention. Je ne veux pas vous bloquer.
Non, je vais juste dire sur la dernière question sur la haine, pouvoir un moment donné choisir, faire un choix entre l'amour et la pulsion. Je veux dire que le problème est, bon, c'est problématique dans le rêve, parce que dans le rêve, le plus rêver, le plus faire.
Reprendre le début. Elle a une question intelligente, attention.
Non, je voulais rebondir sur les dernières interventions que vous avez faites, notamment sur la question de la haine et comment bien jouer, comment finalement on arrive à faire le bon choix. Bien, ce que je voulais rappeler, c'est que le rêve, justement, donne cette possibilité de pouvoir rêver qu'on peut tuer son père, sa mère, le petit ami de sa meilleure amie, etc. Mais c'est pas parce qu'on le rêve qu'on va le réaliser. Donc le rêve est juste.
Ah, déjà ça.
Et avoir Yann lui, tu vois, c'est
en ça. Stock. Alors, Starbucks, tu poses plus là ? Oui, ce qui arrive.
Bon, t'es merci d'avoir écrit tout ça. C'est bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous oublions trop souvent que la théorie psychanalytique a été inventée par un Allemand. Et que la langue allemande est une langue éminemment dialectique. Sein und werden, c'est le même verbe. Et en fin de compte, je crois qu'il y a quelque chose, non pas puisque c'est Hegel qui a quand même remis au bout du jour cette espèce de communauté entre les deux liens, et je crois que quand nous lisons Freud, qui parlait l'allemand et l'hébreu, il ne faut quand même pas, ou au moins, il ne faut quand même pas oublier qu'il se situe dans une pensée en mouvement. Werde was du bist, disait Goethe. Et en fin de compte, on retrouve ça dans la pensée allemande et en particulier grâce à Hegel. Alors, je voulais juste souligner ça parce que ça agit sur ce qu'on appelle une structure. Moi, je reste assez structuraliste, hein, parce qu'une structure définie par Lévi-Strauss, c'est quand même très remarquable. C'est un rapport non quelconque entre des éléments quelconques. Et je crois que c'est important de se souvenir de ça. Et surtout quand on est plongé dans un cheminement dialectique, c'est très important. Mais les Hollandais le savaient, et quand on met son nez dans les races, on trouve la même chose. On ne met pas humain, on le devient. Et en fin de compte, je crois
comme
que...
Comme la femme, alors.
Hein?
Comme la femme.
Mais ça, je ne sais pas, tu peux le croire.
Ça, je crois. C'est pas moi qui crois. C'est pas moi qui crois. Je n'ai pas femme. On le devient, non?
Non, ça mais je crois qu'effectivement, et c'est ça qui est intéressant, et pour moi, excusez-moi, mais moi, je suis un peu punitive comme ça.
Eh oui.
Donc, je situe vraiment le travail psychanalytique dans le devenir de l'être. Et comme le disait Freud, retrouver l'amour perdu des origines. Et je crois que si le psychanalyste ne l'a pas un peu pour son patient, il ne peut pas bosser.
Merci.
Ensuite. Alors, c'est pas une liste, on va se dire
Voilà, je voulais poser une question sur le problème suivant. Est-ce que ça change quelque chose dans le rapport entre l'analysant et l'analyste quand, étant donné que la psychanalyse c'est quand même un peu tombé dans le domaine public, les gens en savent un peu plus quand même qu'à l'époque de Freud, est-ce que ça change quelque chose justement dans le rapport du fait d'avoir affaire à des analysants qui se piquent d'avoir quelques connaissances sur l'analyse?
C'est là qui se pose cette question.
Tu peux la prendre pour toi.
Non, c'est le problème là qui se pose. Maintenant, là où tu as raison, c'est à l'envers. L'utilité publique égale expulser des institutions. La psychanalyse a été expulsée des institutions. Ensuite, ça peut peut-être plutôt réussir au niveau des cabinets privés. Les histoires institutionnelles, très amusantes à vous raconter. Je vais raconter, c'est l'invité à une réunion à l'université où on devait décider si on devait prendre un psychologue 1 modèle TCC ou un psychologue analyste. Et puis, c'était un des profs d'université que j'avais vu le matin en séance, qui était bien assez. Et l'après-midi, je l'ai retrouvé donc en institutionnel. Et alors, la personne d'après-midi, on a eu la réunion, je me suis dit, c'est bon là,
la psychologue de formation analytique, elle va passer. Eh bien, pas du tout. C'était un soir, il n'est pas question de faire rentrer la psychanalyse là-dedans. Et c'était la même personne. Donc, je veux dire, ça conduit des choses extrêmement complexes, actuellement, du fait, et ça c'est un autre point, que le discours dominant ne va pas dans ce sens. Alors, pourquoi ? Franchement, on ne sait pas. Pourquoi le discours dominant ne va pas dans ce sens ? C'est un truc absolument énigmatique par rapport à ça. Alors, sur la question précise des symptômes des gens, actuellement, il y en a des qui pensent, effectivement, que les symptômes ont changé de source. Il y a une nouvelle clinique. Moi, très honnêtement, je n'ai pas trouvé. Il y a un peu plus de travail du côté des analystes, lorsqu'on appelle les entretiens préliminaires, ils ont un peu plus de boulot pour faire apparaître les formations de l'inconscient, mais ça n'a pas changé fondamentalement. Et la question que tu poses, c'est la différence entre connaissance et savoir inconscient. Tu sais, il n'y a que quelques ponts. Tu vois, c'est-à-dire, ça ne change pas grand-chose, à condition, suspense, qu'il y ait de l'analyste. Et c'est là où on n'a pas suffisamment insisté sur ça. La psychanalyse, c'est quelque chose qui est produit par le fait qu'il y a un analyste. Autrement, il n'y a pas de psychanalyse. On a beau avoir tout le décorum, la photo de Freud, le vivant, des bons fauteuils. Ça, il faut comprendre. Pourquoi ? On peut dire pourquoi. Thérapeutiquement, ça peut marcher. Hein. Thérapeutiquement, pourquoi ? Ça, c'est Safon qui le disait, même tout à fait intéressant. La parole elle-même, le langage, a une fonction thérapeutique. Sauf dans la mélancolie, hein, à retenir. Mais ça a une fonction thérapeutique. Hein, c'est-à-dire, vous parlez, vous allez chez le curé, chez le rabbin, qui est mal en point, d'accord, mais vous allez chez quelqu'un, bon, vous allez... Mais vous prenez un autre, c'est pas le problème, on en trouve. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'analyse là-dedans, et ça, c'est un point qui est extrêmement délicat actuellement. C'est pour ça que là où on met l'accent et où on reste quand même en contact, où les associations d'analyse restent en contact avec l'État, même si il y en a beaucoup qui sont contre, les vrais purs, tu sais, les purs, ils ne mettent pas les mains là-dedans, c'est très important de savoir si la psychanalyse va être bouffée, par, comme dans les autres pays d'Europe, par l'État ou pas. Ça, c'est une vraie question. Parce qu'on a obtenu un contrat, ça, on ne le dit pas assez, en France, on a obtenu un contrat, les associations d'analystes, comme quoi, d'accord, on essaie de participer un peu à l'histoire du statut de psychothérapeute, mais la condition, c'est, en ce qui concerne la psychanalyse, c'est les institutions d'analystes qui sont responsables de la formation des analystes, et que l'État n'y met pas le droit. Et en Europe, ça devient exceptionnel. Tu vas en Italie, tu vas en Allemagne, si on va en tout, c'est devenu tout à fait fermé.
Y a-t-il encore une question ?
Ouais. Ça, c'est une vraie question politique. Ça, c'est...
Mais actuellement, on interroge les psychanalystes à propos de tout, ouais, à propos de tous les problèmes. Ce sont eux qui sont supposés, effectivement, savoir tout, n'importe quel problème. Je ne sais pas, l'infanticide, enfin, n'importe quel problème. Il y a toujours un psychanalyste là qui se croit savoir et qui expose son savoir.
C'est vrai, psychiatre, dans le temps. Voilà.
Merci,
merci à vous.